Hola, chers auditeurs, soyez les bienvenus dans l'émission Rencontre lusophone proposée par Radio Résonance, un espace d'une heure pendant lequel Manu, Jeff et moi-même, Hélène, nous allons vous parler de notre autre culture, la culture lusitanienne. Et ce soir, c'est justement d'histoire dont nous allons vous parler. Bonsoir Manu, bonsoir Jeff.
Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous.
Ça va les garçons ?
Oui.
Hélène et les garçons ou Hélène sans les garçons ?
Un peu et les garçons.
Et les garçons. Alors, je disais donc, Manu, que nous allons parler d'histoire et je me tourne vers toi parce que ce soir, c'est toi qui as bossé sur le sujet, n'est-ce pas ?
Oui, on va parler sur l'histoire de Lisbonne, la troisième partie.
Et dernière partie ?
Troisième et dernière partie.
Exactement, très bien, ok. Alors maintenant, dans l'aquarium, tout va bien, Jeff ?
Tout de bien.
Tout de bien ?
Tout de bien.
Vamos embora ?
Bora !
Andala.
Résonance 96.9.
Sur Rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Des sectes au Portugal, vous y croyez, vous ? Moi, je n'y croyais pas, mais depuis que je suis tombée sur un article racontant l'histoire d'un hyper riche Chilien parti s'installer dans une secte, dans un coin perdu de l'Alentejo, j'ai été atterrée de constater que non seulement son histoire n'est pas unique, mais de surcroît, le Portugal serait devenu, depuis quelques années déjà, une terre bénie pour les sectes. C'est bien simple, de l'Alentejo à l'Algarve, on parle de raéliens, d'ashram, d'église universelle du royaume de Dieu, ou de Ogien Kuzan Sholing, une secte plus communément appelée Okase. Et même au sein de Lisbonne, il existe déjà un tas de lieux de culte secrets, presque invisibles au regard de tout un chacun. Pas folle les guêpes. Tant qu'à s'installer, autant que ce soit au soleil. Mais n'y aurait-il vraiment que le soleil qui les attirait là-bas ? C'est la question que je me suis posée. Et alors, pourquoi le Portugal plus qu'un autre pays du Sud ? Eh bien, pour bien comprendre ce phénomène, il faut déjà savoir qu'entre les Portugais et la religion, c'est une longue histoire d'amour qui dure depuis des temps immémoriaux. La plupart des Portugais sont catholiques. Ça, c'est un postulat. Par contre, dans ces 85% de catholiques, tous ne sont pas pratiquants. Non, c'est vrai. Il n'empêche qu'ils veulent tous être baptisés et se marier à l'église. Et au-delà des catholiques, il y a bien sûr tous les autres, toutes les autres obédiences religieuses, telles que les protestants, quelques musulmans, une petite communauté juive et de petits groupes de bouddhistes et d'hindous. Sans oublier la constitution portugaise qui donne un cadre à tout cela en reconnaissant la liberté de culte et en déclarant que nul ne doit être persécuté ou privé des droits à cause de sa foi. Enfin, tout ça pour vous dire et pour vous démontrer qu'au Portugal, on est facilement animé par la foi ou par une spiritualité plus universelle. Ah, bien sûr, la liberté de culte n'a pas toujours été si simple. Sous Salazar, par exemple, l'équation était très simple. Lorsque l'on était portugais, on était catholique. Point barre. En effet, quelle secte aurait à l'époque osé débarquer des Amériques avec ses heures et ses micros ? Aucune. Eh oui. Mais l'air de liberté soufflé par la révolution des œillets a tout chamboulé et le show des adeptes d'un pseudo-dieu mirage occupe aujourd'hui très grassement le territoire portugais. Puisque de l'église universelle du royaume de Dieu, en passant par Mana ou les témoins de Jéhovah, nombreux sont ceux qui se disputent déjà l'affiche portugaise. Et puis il faut dire que les temps aussi ont changé. Les changements dans la société ont eu lieu, pour notre plus grand bien à tous d'ailleurs. La démocratie a permis une plus grande mobilité des personnes, une amélioration du niveau de vie. Il y a eu de grands changements dans l'habillement, l'alimentation, les progrès techniques, et les personnes aspirent désormais à une plus grande autonomie et à tant d'autres choses. On le sait bien, avant 1974, il n'y avait aucune tolérance religieuse. On peut donc affirmer que les sectes ne se sont véritablement développées qu'avec la démocratie. Et c'est véritablement avec la liberté politique que les gens ont ressenti ce besoin de sortir de la domination de l'Église catholique. Les témoins de Jéhovah, par exemple, qui existaient déjà sous Salazar, revendiquent aujourd'hui plus de 50 000 adhérents au bas mot. Mais pourquoi cette secte et toutes les autres ont-elles alors jeté leur dévolu sur le Portugal ? Eh bien, certains responsables de ces différents mouvements se sont laissés dire que ce serait pour des vertus ou les vertus du peuple portugais qu'ils disent accueillant et pacifique. Ah oui, quand même.
Materialista sou eu, mas dialético, porém. Se sou materialista e dialético também. É a teoria geral de marxista-leninista, chamada assim porque é leninista e marxista. Democracia popular é mais segura. É democrático, operária, ditadura. A estrela condutora é a ciência da faísca que incendeia a pradaria, mais-valia, fora ou mais e tal e qual o capital. As grandes massas proletárias dispersar e concentrar na guerrilha de ações sumárias. Se a aplicação mecanicista de outro ao mesmo formato é roer o próprio pé para ajustá-lo a outro sapato. E adornos de canto e ferrugem enfadista faça a fina origem burguesa o artista ao serviço do povo e ao meu serviço dos ativos das carteiras deste fundo e de outro mundo. Fundo investe em fundos de fundo do fundo. Mas dialético porém, e olho posto em fundos mobiliários. Se sou materialista e dialético também, a bolsa é um tigre de papéis imaginários. É a teoria geral marxista-leninista, simples volatilidade dos mercados, chamada assim porque é leninista e marxista. Turba da taxa de juros sublimada. Democracia popular é mais segura na carteira. Democrático operário é ditadura financeira. A estrela condutora é a ciência da faísca que incendeia a pradaria. Mais valia fora o mar e tal é igual o capital. Massas proletárias, vai no sonho em grandes massas monetárias, dispersar e concentrar na guerrilha de ações sumárias, em salas de corretagem milionárias. Se a aplicação mecanicista de outro ao mesmo formato, compra já obrigações à taxa fixa, é roer o próprio pé para ajustá-lo a outro sapato, e amanhã já baixa a taxa mais polícia. E adornos de campo e ferrugem, o fadista embuçado, disfarça a fina origem burguesa, o artista coitado, ao serviço do povo e ao meu serviço, dos ativos das carteiras deste fundo e de outro mundo. Fundo investe em fundos de fundo do fundo.
C'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
Au matin du 1er novembre 1755, jour de la Toussaint, il fait beau. Le ciel est d'un bleu limpide et pour une journée d'automne, il y a une certaine douceur dans l'air. Tout le monde s'active et on met les plus beaux habits pour prendre la direction des églises et autres cathédrales pour les premières célébrations de la Toussaint. Soudain, aux environs de 9h40, un terrible rugissement surgit des entrailles de la Terre. En l'espace de 9 minutes, 4 violentes secousses sismiques vont se succéder. Des énormes crevasses surgissent çà et là, des émanations de gaz sulfuriques se propagent dans la ville. Quand ils ne sont pas écrasés par les bâtiments, les gens meurent d'asphyxie. La fin du monde, tant redoutée par les Lisboètes, est arrivée. Les maisons, les beaux palais d'Aribert, les somptueux couvents s'effondrent comme des châteaux de cartes. Le magnifique couvent de Carme et les églises deviennent des pièges mortels pour tous les gens qui sont venus assister aux premières messes de la journée. Dans le chaos général, la populace essaye vainement de trouver refuge sur les quais et sur la place du commerce. Mais le Tage ne leur sera pas plus clément. L'eau se retire soudainement, laissant entrevoir le lit visqueux et nauséabond du fleuve, pour revenir ensuite en une énorme vague. Le tsunami, qui selon les dernières estimations devait faire entre 5 et 10 mètres, va balayer toute la partie basse de la ville, entraînant tout sur son passage. Quand l'eau se retire enfin, elle laisse la place à une vision d'apocalypse. Les cadavres se comptent par centaines, hommes et animaux confondus. Un gigantesque incendie qui durera une semaine dévastera la ville, dû aux chutes des cheminées, des lampes à huile, mais aussi par des pillards qui commenceront à sévir dès que le calme assez relatif sera revenu. Car en vérité, en l'espace d'un an, Lisbonne subira 500 secousses sismiques plus ou moins fortes. On estime aujourd'hui que la principale, celle du 1er novembre, avait une intensité de 8,7 sur l'échelle de Richter. En 1755, Lisbonne comptait alors environ 260 000 habitants. L'historien José Auguste Frank avancera un bilan de 10 000 morts, ce qui représente 4% de la population. D'autres historiens penseront, eux, que le chiffre de 10 000 est très peu. Ils tableront plutôt sur 30 000, ce qui doit, à mon humble avis, être plus près de la réalité. En fait, on ne saura jamais le chiffre exact, car beaucoup restèrent piégés sous les décombres et le recensement des victimes fut assez aléatoire. Disons que l'on avait d'autres priorités. Toute la partie basse de la ville, sur 2,5 km, fut touchée, jusqu'à la colline de Roussillon. Les pauvres ont payé le plus lourd tribut, car en ce jour de Toussaint, le roi et toute sa cour étaient partis la veille à Belaigne pour y passer la journée du 1er novembre. En fin de compte, la noblesse fut peu impactée. Quelques jours plus tard, ce ne fut pas le faible et si peu charismatique souverain José Ier qui prit les choses en main. Mais ce fut son premier ministre, un certain Pombal, qui mena les directives.
Com três paus faz-se bordão, com mais faz-se ponteiro. O demo anima a função, encarnado gaiteiro. O diabo já velho, mas grande folião. Na festa mete o bedelho para animar a bailação. Para aquecer o bailarico, abre a torneira ao túnel. O cura dá-lhe o fanico, lá se vai o hidromel. Esta bebida dos anjos que agrada tanto ao demónio. Já tentou São Cipriano, São João e Santo António. Santo António milagreiro fez pacto com o demónio. O diabo era gaiteiro e o santo tocava harmónio. São João tocava a caixa com dois paus de marmeleiro. Mas o delírio das moças era a gaita do gaiteiro. Inchava como leitão quando se lhe puxou o rabo. Pela copa do bordão jorravam roncos do diabo. Era a gaita do demónio que soava em dia parada. Afinava com o harmónio, mas não estava homologada. Estava fora das medidas, saía da convenção. Tinha veias no ponteiro e dois papos no bordão. Criação de Belzebu, diabólica magia. Nas voltas da contradança, quem dançava enlouquecia.
E nas voltas da loucura, as almas em desatino saltavam de corpo em corpo, errando do seu destino. O gaiteiro a reunia como se junta um rebanho, fê-las descer ao inferno, no fogo tomaram banho. E já os corvos em brasa iam fazendo das suas, as vestes esfarrapadas mostravam as carnes nuas.
Indulgência, absolução. Faz-se um bordão, com mais um faz-se um ponteiro. O demo anima a função, encarnado num gaiteiro.
As fêmeas eram lascivas, ondulantes de paixão, corroídas do desejo, contorciam-se no chão. No terreiro da função, os corpos se confundiam, seguidores de Belzebu, das almas santas se serviam. Foram pela noite fora, perdidos no bacanal, ao som desta banda louca, até ao juízo final.
C'était les Roncos do Diabo de Gaiter Lisboa, un groupe qui nous a vraiment plongé dans cette ambiance un peu morbide du séisme de Lisbonne. Donc Pombal, comme disait Manu tout à l'heure, installera un couvre-feu, donnera l'ordre d'abattre sur le champ qui que ce soit, pris en flagrant délit de pillage, puis il fit répandre de la chaux vive sur les ruines. Sans se préoccuper des gens pris encore sous les décombres, la peur d'une épidémie était grande, il fallait faire vite. Dans les mois qui suivirent, Pombal fit raser toute la ville basse. Il avait dans la tête un nouveau Lisbonne, et pour cela, il convoqua les meilleurs architectes du moment, et plus particulièrement un certain Manuel de Maille, qui fut l'auteur des plans de l'aqueduc des Eaux Libres. Il s'entoura d'ingénieurs militaires qui étaient chargés de l'élaboration des plans. Ils s'inspireront fortement des anciennes cités romaines, le plan andamier, les rues se couperont en angle droit. Principe qui, plus tard, sera repris par les grandes villes américaines. Le point de départ sera Outre do Paso. Elle va être agrandie et embellie. La rue principale, la rue Auguste, reliera la place du Commerce à la place du Roussillon. Les immeubles de style néoclassique aux façades sobres et identiques n'auront pas plus de 2 étages, pour permettre, entre autres, aux habitants de descendre dans la rue en cas de tremblement de terre. Les artères principales seront larges, ce qui fait un peu ronchonner quelque peu les lisboètes. Mais Pombal dira qu'un jour, dans l'avenir, on les trouvera trop étroites. Les architectes éviteront les impasses et autres porches, qui étaient par le passé de vrais coupe-gorge. Les immeubles, quant à eux, seront construits, qui étaient construits à cette époque, utilisent une nouvelle technique, la technique d'agayol, la cage. C'est une espèce de structure en bois soutenant les parquets très flexibles, réalisés avec des pièces en hêtre formées par des jambettes et des entretoises. Ce système se révélera pour approbant. Les immeubles des années 1920 seront bâtis sur le principe, qui démontra son efficacité lors du séisme de 1969 dans les quartiers situés dans l'est de Lisbonne. En l'espace de 10 ans, 59 bâtiments seront érigés, dont 31 à rue Auguste, sur un total de 620 maisons reconstruites dans les différents quartiers, plus de 95% verront le jour grâce à l'argent de la bourgeoisie. Au bout du compte, seules 14 seront réellement construites grâce aux deniers de la noblesse. Les fameuses arcades de la place du commerce datent elles aussi de la reconstruction. Pombal, lui, donnera le nom de place royale. Elle sera parachevée par la mise en place d'une statue monumentale à l'effigie du souverain, José Ier, en tenant de sa main droite un sceptre censé représenter le pouvoir royal absolu. Il est là, assis fièrement sur un cheval qui semble piétiner des serpents à ses pieds. Cette statue, aux proportions assez aléatoires et quelque peu fantaisistes, sera faite par un sculpteur du nom de Machado de Castro. Et comme le rappelle une inscription au piédestal, ce sont les bourgeois de la ville qui la paieront. Comme les Portugais ont toujours été friands de petites anecdotes, des générations d'écoliers ont dû entendre cette question posée par leur professeur. Quelle est la jambe droite, c'est-à-dire tendue, du cheval de Don José ? Réponse, la gauche. Eh oui, jeu de mots. Bien sûr, le cheval, en piétinant les serpents, est en position piaffante et courbe la jambe droite, d'où la devinette posée. One, two, three, four.
Usa chinela, tem movimentos de gata. Na canastra, a caravela. No coração, a fregata. Na canastra, a caravela. No coração, a fregata. Em vez de corvos no chaila, gaivotas veiam poesia. Quando o vento a leva ao baile, baila num baile com mar. Quando o vento a leva ao baile, baila num baile com mar. Que de conchas o vestido, tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma treneira e nas veias o latido do motor de uma traineira. Vende sonhos e maresia, tempestade se apregoa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa.
La statue pèse 38 tonnes et 80 hommes furent nécessaires pour la construire. De plus, en déplacement de l'arsenal de l'armée qui est de nos jours le musée militaire, à la place du commerce, mobilisèrent un millier d'hommes. Comme elle était très encombrante, son déplacement a entraîné la destruction de la dernière porte médiévale de Lisbonne, à Porta de Cruz. Ursillon fut aussi, lui, très endommagé par le séisme. Le palais de l'Inquisition, le couvent de San Domingos et l'hôpital de Todos os Santos ont été détruits. Les architectes lui donneront cette forme de parallélogramme qu'elle a de nos jours. En 1836, le palais de l'Inquisition sera remplacé par le théâtre Dona Maria II. Les travaux sur la place du Roussy ne seront achevés quant à eux qu'en 1845. Attenant le palais de l'Inquisition, l'église de San Domingos sera reconstruite. À l'est de la place où se trouvait l'hôpital, un emplacement est réservé à un grand marché avant de devenir, dans les années qui suivirent, la place da Figueira. Les nouvelles conceptions d'urbanisme de la cité obligent la construction d'une promenade publique. Il sera installé dans la vallée qui s'étend au nord du Roussillon, sur des terrains marécageux qui appartiennent à un comte. Le projet permettra d'assainir un quartier très abîmé par le séisme. Le premier jardin public de Lisbonne, conçu par Reinhard Manuel, un architecte travaillant pour la municipalité, ne fera pas l'unanimité, que ce soit pour les Lisboètes ou par les touristes étrangers qui visitent la ville. Elle sera nommée ironiquement la misérable petite promenade publique. Vers la fin du XVIIIe, elle deviendra l'endroit préféré des vagabonds, gitans et esclaves noirs. En dépit des constructions, le renouveau avance cependant lentement et encore plus lentement à partir de 1776, quand Pombal sera écarté du pouvoir. En 1767, les visiteurs remarquent encore des quartiers entiers dévastés. Les Lisboètes, pour circuler, ont ouvert des sentiers parmi les gravats. Le paysage est parsemé de ruines. En fait, les traces de la catastrophe vont perdurer jusqu'en 1806. Le fait est que les principaux acteurs de la construction vont peu à peu disparaître et qu'ils ne seront pas remplacés. Du moins, dans l'immédiat. Et puis surtout, leurs remplaçants n'auront pas le talent de leurs aînés. En 1778, le marquis d'Angers, le remplaçant de Pombal, auprès de la reine Maria I, ne tarde pas à arrêter les travaux. Le trésor public connaît des difficultés, la construction de la basilique des Étoiles mobilise des fonds disponibles. Puis à partir de ces années-là, une urbanisation sauvage apparaît dans la partie orientale de la ville, à Sepedorch et Saint-Apollonia. En fait, la capitale s'étend non seulement vers l'est, mais aussi vers le nord. De nouveaux quartiers voient le jour, derrière la colline du Castel Saint-Georges, mais aussi dans la vallée d'Alcântara, Santo Amaro, Junqueira, Iajuda, se couvrent de nouvelles habitations. On y voit des petites maisons côtoyer des somptueuses demeures et des palais. Des zones résidentielles chics se créent à Estrel, autour de la basilique du même nom, mais aussi dans le quartier Alap. Et c'est à Rato que sont installées les premières manufactures royales des céramiques. Les azulejos vont commencer à embellir les maisons vers la fin du XVIIIe. La construction d'une manufacture de la soie entraînera la création du premier quartier ouvrier de la capitale, les amoureiros, aussi appelés águas livres ou les cedas, les soies.
Cavalheiro, tudo ele transpirava, elegância. Ela era gata, borralheira, tivera que limpar a sua infância. Ele velejava no verão e esquiava no inverno. Ela trabalhava ao balcão de um qualquer estabelecimento moderno. Ele gostava de reluzir em si o estilo da capital. Ela já não conseguia distinguir as cores da bandeira nacional. Ele tinha entre os seus títulos uma futura ordem do infante. Ela achava levantar do dedo mindinho algo deselegante. Mas ele um dia curvou-se a seus pés. 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 O tempo a descobrir o que era a cultura. E ele confirmou-se aos seus aposentos e descobriu a costura. Ela quis poder entender o universo e começou a ler Platão. E ele resolveu perceber o que era a justiça em frente à televisão. A ele por nada lhe valeu a aparência nem a casa no Largo do Rato, porque ela sabia que era Cinderela e enganou-o com um sapato. Ele que um dia fora príncipe agora rendia-se à evidência com mulheres que calçam o 40. É melhor revelar prudência. Hoje ele ainda beija seus pés. Hoje ele ainda beija seus pés. Hoje ele ainda beija seus pés. Hoje ele ainda beija os seus pés.
À la fin du XVIIIe siècle, Lisbonne s'étendra sur 670 hectares. Les travaux et les différents chantiers qui parsèment la ville vont attirer toutes sortes de gens, des petits paysans, des maraîchers et des travailleurs saisonniers. Leur arrivée va entraîner l'apparition autour des chantiers, des échoppes, des baraques et des tavernes. Des débuts de bidonvilles vont apparaître dans certains quartiers où les pauvres et les ouvriers vont commencer à s'entasser. Le XVIIIe siècle reste aussi le siècle de l'apparition des premiers cafés de renom. Bien sûr, cela faisait belle lurette que des tavernes existaient, mais c'était bien souvent des lieux malsains et peu fréquentables. L'une des plus vénérables institutions lisboètes demeure incontestablement Martinho da Arcada, sur la place du commerce. Les intellectuels et les fonctionnaires et autres bourgeois commencent assidûment à fréquenter ce genre d'endroit, où bien souvent on a dû, au fil des conversations, changer le monde. Et puis n'oublions pas le très connu Café Nicolas sur la place du Rossille qui existe depuis 1787. Sous le règne de Maria Ier, qui n'apportera rien à part le couvent des étoiles, surgit un singulier personnage, Diogo da Pina Manic, intendant général de la police. Il n'a qu'une idée en tête, imposer l'ordre et assainir les mœurs des habitants de Lisbonne. Il poursuivra implacablement les voleurs et les prostituées et autres meurtriers. Il va créer en 1782 une institution de charité, à Casa da Pia, destinée à recueillir les enfants abandonnés. C'est lui aussi qui commencera à doter Lisbonne d'un éclairage public. Enfin, serais-je tenté de dire, car cela faisait bien longtemps que dans les autres capitales européennes, l'éclairage existait. En 1788, Lisbonne comptait plus de 700 lampes alimentées en huile d'olive, qu'on n'allume pas les nuits de pleine lune par souci d'économie. Le 19e siècle, pour le Portugal, ce ne sera pas du tout repos, et encore moins pour sa capitale. C'est à croire que le tremblement de terre délimita la fin de l'ère portugaise et de son glorieux passé. Fini les Camões, les Vasco de Gama, le règne majestueux de Manuel Ier, où le Portugal était réellement la plus grande puissance mondiale. Le Portugal, au XIXe siècle, était devenu une véritable colonie de l'Angleterre, et les conséquences de la vieille alliance qu'il y avait entre les deux pays, mis à dos, l'Espagne voisine, alliée de la France, napoléonienne. Avec la guerre des Oranges, le Portugal perd la région d'Olivença et la ville de Badajoz. Le 30 novembre 1807, les armées de Junot sont aux portes de Lisbonne. La famille royale, dans sa totalité et une bonne partie de sa cour, s'embarque vers le Brésil, laissant les Lisboètes à leur sort et aux mains des Français. Pendant des mois, les Français seront sur place jusqu'à l'intervention des Anglais, appelés à leur rescousse pour les déloger. Suivent des années de troubles et de révoltes pour expulser l'occupant anglais. «
bate que bate no peito um tambor. O que será que me deu? Será que fui morto em combate? Ou será amor?
Desce no peito um frio, um calor. O que será que me deu? Será falta de chocolate? Ou será amor?
Só sei que até as buzinas da hora de ponta parecem cantar. E até o cheiro a gasolina emana um aroma de rosas no ar. E o shopping dos olivais lembra as luzes de Paris. E até nas capas dos jornais vem que afinal o mundo é feliz. Lará, lará.
Será que tô tendo um chilique? Ou será amor?
Ataca a espinha e rompa de ti, acelera o coração. Será que sai com a aspirina? Ou será amor? Só sei que até as cantigas que tocam na rádio me descem cantar. E as ervas daninhas da berma da estrada parecem jardins ao luar. E a cantora do show da manhã tem a voz que nem é lis. E o homem do telejornal diz que afinal
En 1822, le Brésil obtient son indépendance et Lisbonne se tourne naturellement vers les colonies africaines, pourtant convoitées par les autres puissances coloniales. Pendant 50 ans, cela ne sera qu'une suite de coups d'État, de conflits et de révolutions. Les anarchistes et autres troubles faits auront la part belle. Il n'y a qu'en 1849, avec Costa Cabral, que le pays aura une certaine stabilité. Au niveau urbanisation, peu de choses seront faites pour embellir Lisbonne. À part peut-être quelques endroits où des baraques vont surgir de terre. Malgré tout, dans ces années sombres, un faisceau lumineux a surgi. Et il a pour nom le Fado. Alors on ne connaît pas trop ses origines, tout ce qu'on en sait, c'est qu'il est né à Lisbonne au XIXe siècle. On lui donne la paternité au chant que les esclaves noirs entonnaient en partance vers les Amériques. D'autres disent que ce sont les chants aux arabes ou bien juifs. On prétend aussi que ce seraient des chants marins. Un des premiers chanteurs célèbres fut un certain Manuel Serrano, et puis évidemment l'égérie du Fado, Maria Severo Nofriana, née en 1820 dans le quartier de Madragoa. Sa mère, qu'on appelait Aberbuda, la barbue, tenait une gargote avec sa fille, où celle-ci chantait le Fado, et où pour arrondir les fins de mois se prostituait. Un fidalgo du nom de Francisco de Paula, comte de Vimioso, croise la route de Severa et devient rapidement son amant. Et par son entremise, les fados de Marie vont se faire connaître dans la bourgeoisie et la noblesse portugaise. 150 ans plus tard, le fado est internationalement connu dans le monde entier et fait partie du patrimoine mondial immatériel de l'humanité géré par l'UNESCO. Une autre activité que les Lisboètes adorent en dehors du fado, c'est bien entendu as touradas, les corridas, et surtout les courses de taureaux dans les rues de la ville. La reine Marie Ier, en 1788, fait bâtir des arènes à Jonqueira, près de Belém. Et puis, en 1836, des arènes en bois sont construites au Camp Santana. et ce n'est qu'à partir de 1826 que la mise à mort du taureau sera interdite dans l'arène. En 1850, Lisbonne compte 150 000 habitants. Quelques nouveaux quartiers voient le jour. Le quartier du Prazer, Arroyos, Penha de França, au nord de la ville, et Santa Plogne, où s'implantent quelques manufactures. Les lampadaires à gaz apparaissent en 1848, grâce notamment à un certain Patrício Ruiz. L'éclairage public électrique n'arrivera à lui qu'en 1878. Dans ces années-là, on commence sérieusement à penser au désenclavement de la capitale et le problème des transports publics est au-devant des préoccupations de la municipalité. En 1852 est créé le ministère des Travaux publics, du Commerce et de l'Industrie. Un réseau routier sera alors développé avec 2883 km entre 1859 et 1875. En 1885, il y aura 1529 km de voies ferrées construites au Portugal. Grâce à cet effort de travaux publics, la population de Lisbonne ira en augmentant, 160 000 habitants en 1864. Le recensement de 1904 donnera, lui, le chiffre de 435 359 Lisboètes exactement.
Ça fait même pas 20 ans que je te connais, toi tu vois déjà dans mes veines le creux qu'ont laissé les larmes et la distance de 2000 kilomètres.
C'est parce que t'as le même gorgé de soleil et de souvenirs qui dansent au rythme des fadours de leur robe noire et cris immenses.
Y'a comme un goût de par cœur que je parcours dans tes soirs, tes matins. Pourtant on n'est ni sœurs ni amants avec ou sans lendemain.
On a ces mêmes grands plats, ces grands hommes qui nous ont marqué au fer.
Depuis Salazar, le marquis de Pombal,
jusqu'à nos terribles grands-pères.
Chère abeille,
elle a j'atteigne ça.
Chère
aloua, chère aloua,
chère à Lisboa,
chère à Lisboa.
Chère abeille,
chère abeille,
elle a j'atteigne ça.
Elle a j'atteigne ça.
Chère aloua,
chère aloua,
chère à Lisboa,
chère à Lisboa. Perdu entre la mer et les montagnes, mantolées de Sintra, toi tu te repères avec un nuage d'allégria.
T'as ces lignes de conduite de suivre le vent. Et peu importe les marées hautes ou basses, orages, tourments, pourvu qu'il t'emporte.
Para 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 para. Chère abeille,
chère abeille,
et là j'atteins ça,
et j'atteins ça.
Ma chère à Loua, chère à Lisboa. Chère abeille,
chère abeille,
et là j'atteins ça,
et j'atteins ça.
Ma chère à Loua,
chère à Lisboa. Tu t'es rebâti après un séisme pire que l'enfer, plus belle, plus rayonnante. La bouse de lumière, et ça me rassure de savoir que même quand nous serons plus là, même juste dans l'air encore, on te sentira.
Ma chère Loua, chère Lisboa.
Vers la fin du siècle, des parcs et des jardins voient le jour, pour donner plus de clarté à la ville. Mais encore beaucoup d'étrangers disent que Lisbonne est une ville sale. Les ordures encombrent encore les rues et des torrents d'eau usée se déversent encore vers le Tage à l'air libre. Heureusement, en cette fin de siècle, la décision enfin de construire un réseau de canalisation et d'égouts dans toutes les rues sera prise. Cela devenait vraiment urgent. À la place de la promenade publique derrière Rossille, une avenue que l'on appellera Avenida da Liberdade sera percée. Pour la première fois, Lisbonne tourne le dos au Tage et relie le centre-ville au nord. Elle commencera avec ce qui est de nos jours à Praça dos Restauradores, avec un obélisque de 30 mètres planté au milieu, et remontera vers le nord sur 1,5 km et aura une envergure de 90 mètres de large. En 1888, un ambitieux projet d'urbanisation va être mis en place, présenté par Ressano Garcia. Il consiste à aménager le haut de l'avenue de la Liberté et la construction d'un parc de grande dimension. Grâce à ces projets, Lisbonne s'agrandit de plus en plus vers le nord et l'est. De nouveaux quartiers verront le jour. Les premiers transports publics sont introduits en 1876, que l'on appellera l'américain. C'est bien sûr l'ancêtre des tramways électriques que l'on connaît aujourd'hui. Au début, ils étaient tirés par des chevaux posés sur des rails. C'est aussi en cette fin de siècle qu'apparaissent les premiers funiculaires. Ils étaient mus par la vapeur, du moins au début. Le plus ancien est celui de Lavre, inauguré en 1884. Entre 1864 et 1911, la capitale va enregistrer un énorme afflux de paysans venus de tout le Portugal et surtout des régions centrales. Les nouveaux arrivants vont grossir le nombre des ouvriers qui sont employés dans les ateliers et usines. D'autres survivront tant bien que mal de mendicité ou grâce à des réseaux de solidarité ou bien de petits métiers urbains. En l'absence de logements sociaux, les nouveaux arrivants s'installent dans d'immenses terrains vagues où des bidonvilles surgissent, endroits où la promiscuité est de mise.
Marcado tenho destino marcado. Desde a hora em que te vi, homem cigano adorado, viver abraçado ao fado, morrer abraçado a ti, homem cigano adorado.
C'est une superbe version Rue du Caplan, interprétée par Amal Erdelich et accompagnée par le célèbre saxophoniste Don Biege. Et on arrive au XXe siècle, Manu.
XXe siècle, oui. Le XXe siècle, Lisboète sera un siècle d'expansion vers le nord, mais aussi vers l'ouest, au-dessus de Belém, où la vallée d'Alcantara va se remplir d'usines et de quartiers ouvriers, mais aussi d'événements historiques. En 1908, l'assassinat du roi Don Carlos et de son fils aîné sur la place du Commerce, la mise en place de la République en 1910, et puis les années de troubles qui s'en suivent. Plusieurs soulèvements se produiront dans la capitale, faisant des dizaines de morts. Mais l'entrée en guerre en 1917, aux côtés de l'Angleterre, sera le coup de grâce d'une République moribonde. En 1926, une dictature va se mettre en place. Salazar mènera le pays d'une main de fer pendant 40 ans. Entre 1920 et 1930, Lisbonne est passée de 485 000 à 585 000 habitants et s'est étendue vers le nord-est. De nouveaux quartiers sont créés, Olivais et Serles. En 1938, on commence à penser à construire un aéroport. En fait, il sera construit en 1943, sur le plan de Quel do Amaral. Et aussi un pont qui relierait les deux rives. En 1950, Lisbonne comptera 700 000 habitants. Et ce nombre, qui ne cesse de croître, oblige la municipalité de repenser l'urbanisation. De nouvelles lignes de tramway sont créées. La mise en place de bus impérial, ce sont des bus à deux étages, type anglais, résout momentanément le problème. Le métro de Lisbonne, lui, ne sera mis en service qu'en 1959. En 1966, sera construit le pont sur le Tage. La mise en œuvre du monument sera confiée à une entreprise américaine. Celle-là même qui a érigé le pont suspendu, le Golden Gate, à San Francisco. C'est pour cela que les deux ont un air de famille. Appelé le pont Salazar en 1966, il sera débaptisé en 1974 et sera désigné comme le pont du 25 avril. Un autre pont sera construit en 1998, plus en amont pour l'exposition universelle, long de 17 km, le pont Vasco de Gama. Suite à la révolution des œillets et aux indépendances des colonies, Lisbonne voit arriver 700 000 réfugiés portugais qui durent s'enfuir des anciennes colonies portugaises. S'ensuit des conflits. La ville peine à juguler cet afflux massif de gens. La capitale, dans ces années-là, dépassait allègrement le million d'habitants. Dans les 15 ans qui suivirent, la normalité revint. En 1989, un terrible incendie ravagea les beaux immeubles de Chiado. Les années 90 furent celui des axes routiers et autres autoroutes, grâce notamment aux subventions de l'Union européenne. Les grandes chaînes de supermarchés européens arrivent dans la capitale. D'énormes centres commerciaux sortent de terre, comme le Colombo. De nos jours, Lisbonne est devenue une belle capitale européenne. Aux dernières nouvelles, une des destinations à la mode. Hélas, cet afflux sans cesse incessant de touristes a un effet pervers. En quelque sorte, un double effet qui se coule. Des quartiers comme Amurari ou Waltham perdent d'année en année leur charme. Mais Lisbonne restera toujours Lisbonne. Et puis, une ville fondée par Ulysse ne peut pas mourir. À la star de Rome, elle est immortelle. Voyant que nous sommes un peu en avance, apparemment, je voudrais faire une petite dédicace. Je dédie la chanson qui va suivre à tous les chats et toutes les chattes de Lisbonne, qui, il faut bien le dire, n'ont pas la vie facile à poursuivre les souris. Ne les oublions pas.
J'ai vu Alice Lisbonne, un matin d'automne, un gros chat qui dormait sur un banc. Il dort, il ronronne, mais un vieux bonhomme se penchait sur le chat en chantant. Chat, 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 chat de Lisbonne, il faut que tu chasses les souris de Lisbonne. Chat, 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 chat de Lisbonne, chasse les souris du Portugal. Tu veux qu'on te serve des choses en conserve, du shiba, du ronron. Mais il faut que tu saches qu'il faut que tu chasses, sinon je me fâche pour de bon. Chat, 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 chat de Lisbonne, il faut que tu chasses les souris de Lisbonne. Chat, 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 chat de Lisbonne, chasse les souris du Portugal. Sommeille, se bouche les oreilles, voici que s'approchent six souris. Chut-elle chuchotait, pisca la carotte, elle chantait, danse autour de lui. Chat, 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 chat de Lisbonne, il faut que tu chasses les souris de Lisbonne. Chat, 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 chat de Lisbonne, chasse les souris du Portugal. Le bonhomme en rage le jette dans le Tage. Le chat se réveille et crie miaou. Je demande grâce, je me mets en chasse. Mais s'il y a des souris, dites-moi où. Chat, 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 chat de Lisbonne, il faut que tu chasses les souris de Lisbonne. Chat, 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 chat de Lisbonne, chasse les souris du Portugal. Cloches et clochettes, sonnez, c'est la fête. Hourra, bravo! Chasse est mise en chasse, et les souris passent un mauvais quart d'heure entre ses crocs.
Chat, 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 tu m'étonnes, tu as chassé toutes les souris de Lisbonne. Chat, 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 tu m'étonnes, y'a plus de souris en Portugal. Y'a plus de souris au Portugal. Y'a plus de souris au Portugal.
Un maximum de musique, un maximum de son. 96.9,
c'est Radio Résonance.
Et voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine. Merci à Jeff, à Manu de nous avoir appris autant de choses sur l'urbanisation de Lisbonne. C'était très intéressant. Et merci à vous, chers auditeurs. On revient bien sûr la semaine prochaine pour d'autres rencontres lusophones. Et n'oubliez pas, d'ici là, continuez à vous protéger et protéger les autres. Et ne bougez pas, Jeff a un message important à nous faire passer. Je vous embrasse, Manu.
Au revoir tout le monde.
À samedi prochain.
À samedi prochain.
Et oui, rencontres lusophones, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on revient demain à 15h pour une rediffusion de cette émission. Et sachez que le podcast sera disponible sur la page de Radio Résonance ainsi que sur notre page Facebook Rencontres lusophones au pluriel. Avant de vous quitter, j'ai une annonce de l'association France-Portugal de Bourges qui, cette année, propose avec un peu de retard, Covid oblige, des cours de portugais pour adultes de tout niveau. Ceux-ci débuteront mi-octobre, le temps de prendre toutes vos inscriptions que vous pourrez faire au 06 66 30 87 12 ou au 06 51 65 31 11 ou au 07 63 73 03 60 ou encore à travers l'adresse mail franceportugal18@outlook.fr. Si vous n'avez pas eu le temps de noter tous les numéros, pas de panique! Vous retrouverez tous ces renseignements sur la page de l'association France-Portugal ainsi que sur notre page radio. Et puis, vous pourrez venir à la rencontre des membres de l'association le 13 septembre, lors de la fête de l'association des associations qui aura lieu aux rives d'Oron. D'ici là, continuez à écouter Radio Résonance, à vous protéger en sortant masqué. À tes mâches.